Hontor avait maintenant retiré de son porte-document plusieurs douzaines d'enregistrements de schémas psychiques. Ce n'étaient pas des originaux. D'autre part, le porte-document en question n'avait pas été pourvu d'une serrure ordinaire. Eût-il tenu à la main une clé autre que la sienne, que le contenu se serait instantanément et silencieusement volatilisé en cendres impalpables et indéchiffrables. Une fois retiré du porte-document, les documents s'anéantissaient de toute manière de la même façon au bout d'une demi-heure. Tenant compte du peu de temps alloué, Hontor se hâta d'exposer les faits. Vous avez sous les yeux les enregistrements de plusieurs personnalités officielles de second plan qui exercent leur charge sur Anacréon. Celui-ci appartient à un psychologue de l'université de Locris. Cet autre, à un industriel de Siwena. Quant au reste, vous pourrez en juger par vous-même. Tous les assistants se rapprochèrent. Pour tout autre que Darrell, ce n'était là que des gribouillis sans signification sur un morceau de papier parchemin. Pour le docteur Darrell, ces tracés étaient autant de voix qui s'exprimaient en un million de langues. « J'attire votre attention, docteur Darrell, » fit remarquer Hontor d'un ton désinvolte, « sur ce palier, ce plat parmi les ondes secondaires tauiennes du lobe frontal, qui est la caractéristique que tous ces enregistrements possèdent en commun. Vous plairait-il d'utiliser ma règle analytique pour vérifier ce que j'avance ?» La règle analytique pouvait être assimilée, dans la mesure où un gratte-ciel peut se comparer à une cabane à lapins, à ce jouet de jardin d'enfant qu'est la règle à calculer logarithmique. Darrell exécuta à main levée les croquis des résultats. Et comme l'avait fait remarquer Hontor, il constata la présence de paliers continus dans les régions du lobe frontal qui auraient normalement dû présenter de puissantes oscillations. « Comment interprétez-vous cette anomalie, docteur Darrell ?» demanda Hontor.
« À première vue, je ne vois pas très bien. Je ne comprends pas comment la chose est possible. Même dans les cas d'amnésie, on constate un nivellement, mais jamais une totale annihilation. Sévère amputation cérébrale, peut-être ?»«
On a ôté quelque chose, ça ne fait aucun doute. » s'écria Hontor avec impatience. « Mais pas dans le sens physique. Vous savez que le mulet aurait pu obtenir un pareil résultat. Il pouvait supprimer complètement la faculté d'éprouver certaines émotions, d'adopter telle ou telle attitude spirituelle, ne laissant justement subsister que ce type de tracé. À part lui,
ce pourrait être quelqu'un de la seconde fondation qui a fait le coup. « C'est bien ce que vous voulez dire, »
proposa Turbor en élaborant un sourire complaisant. Question de pure rhétorique qui n'attendait pas vraiment de réponse. « Qu'est-ce qui a éveillé vos soupçons, monsieur Hontor ?» demanda Mun. « Ce n'est pas moi qui ai levé ce lièvre, mais le docteur Clyse. Il collectionnait les schémas psychiques à peu près comme le fait la police planétaire, mais selon des méthodes différentes. » Il s'était spécialisé dans les intellectuels, les personnalités officielles, les capitaines d'industrie. Voyez-vous, si la seconde fondation a pris en main la direction de l'évolution historique de la galaxie, la nôtre, elle doit employer des méthodes aussi subtiles et aussi imperceptibles que possible. S'ils influent sur les esprits, comme c'est probablement le cas, ils doivent porter leur choix sur les gens influents, qu'il s'agisse du domaine culturel, industriel ou politique. Clyse s'intéressait précisément à cette catégorie de personnes.
« Sans doute, » objecta Mun. « Mais votre thèse est-elle corroborée par d'autres indices ? Quel est le comportement de ces individus dont les enregistrements présentent des plats similaires ? Peut-être ne s'agit-il là que d'un phénomène parfaitement normal ?»
Il fixa ses compagnons de ses yeux bleus à l'expression quelque peu enfantine, mais sans obtenir en retour le moindre signe d'encouragement. « Je laisse au docteur Darrell le soin de répondre, » dit Hontor. « Demandez-lui combien de fois il a constaté pareille anomalie au cours de sa carrière. Combien de cas semblables ont été relevés dans les ouvrages qui traitent de la génération passée.
Ensuite, demandez-lui si parmi les catégories étudiées par le Dr Claes, la probabilité de découvrir un fait de ce genre atteignait pratiquement un coefficient de 1 pour 1000.
« À mon avis, » dit le Dr Darrell pensivement, « il n'y a pas de doute que nous nous trouvons en présence de personnalités reconditionnées artificiellement. On les a transformées à leur insu, d'une certaine manière. Je le soupçonnais déjà. »
« Je le sais, docteur Darrell, » dit Antor. « Je sais également que vous avez autrefois collaboré avec le docteur Claes. J'aimerais bien savoir pour quelle raison vous avez renoncé à cette collaboration. » Il n'avait pas mis d'hostilité réelle dans cette question. Ce n'était peut-être qu'un réflexe de prudence. Quoi qu'il en soit, il obtint pour toute réponse un long silence. Darrell regarda ses invités l'un après l'autre, puis il dit brusquement
« Parce que la croisade entreprise par Claes était sans lendemain. Il s'attaquait à un adversaire beaucoup trop puissant pour lui. Il avait découvert la preuve de ce que lui et moi nous soupçonnions depuis un certain temps, que nous n'étions pas nos propres maîtres. Et je ne voulais pas le savoir. » J'ai mon amour propre. Il me plaisait de penser que notre fondation avait la libre disposition de son âme collective, que nos ancêtres ne s'étaient pas battus, n'étaient pas morts tout à fait pour rien. Je pensais qu'il était plus simple de détourner les yeux tant que je n'avais pas acquis une absolue certitude. Je n'avais pas besoin des émoluments que me conférait ma situation, puisque la pension perpétuelle allouée par le gouvernement à la famille de ma mère suffisait à mes simples besoins. Mon laboratoire personnel m'aurait permis de tromper l'ennui en attendant notre sort à tous. C'est alors que Claes est mort.
« Ce Claes, » dit Semik en montrant ses dents, « je ne le connais pas. Comment est-il mort ?
Il est mort, c'est tout. » interrompit Antor. Il s'y attendait d'ailleurs. 6 mois auparavant, il m'avait dit qu'il s'était approché trop près.
Et maintenant, c'est nous qui sommes trop près, nous,
suggéra Mun, la bouche sèche, tandis que sa pomme d'Adam s'agitait.
Oui,
se contenta de répondre Antor. Mais nous l'étions déjà. Tous autant que nous sommes. C'est pourquoi vous avez été choisi. J'ai été l'élève de Claes. Le docteur Darrell était son collaborateur. Joel Turbor n'a cessé de dénoncer sur les ondes notre foi aveugle dans la vertu salvatrice de la Seconde Fondation jusqu'au moment où le gouvernement lui a coupé la parole sur l'intervention, je vous le signale en passant, d'un puissant financier dont le cerveau présentait ce que Claes appelait dans son jargon le palier des manipulés. Omir Mun possède la plus importante collection multière, si je puis me permettre d'employer cette expression pour qualifier un ensemble de documents concernant le mulet, et il a publié des articles où il spécule sur la nature et le fonctionnement de la Seconde Fondation. Le docteur Semik a contribué autant que quiconque aux travaux mathématiques concernant l'analyse encéphalographique, même si, à mon avis, il ne pouvait guère imaginer ce qu'on allait pouvoir faire avec ces formules. Semik ouvrit tout grand ses yeux et répondit dans un gloussement étranglé.
« Vous avez raison, jeune homme. J'analysais les mouvements intranucléaires, le problème du corps N, si vous voulez tout savoir, l'encéphalographie, je n'y connais strictement rien. »
Nous voilà donc fixés à présent. Le gouvernement est impuissant, évidemment. Le maire ou quelque autre membre de l'administration est-il au courant de la gravité de la situation? Je l'ignore. Mais je sais une chose. Nous cinq, nous n'avons rien à perdre et tout à gagner dans cette histoire. Chaque fois que nous accroîtrons nos connaissances, nous pourrons élargir notre action vers des secteurs qui ne présentent pas de danger. En fait, nous ne faisons couvrir la voie.
Quelle est l'étendue de cette infiltration de la Seconde Fondation ?
Intervint Turbor. Je n'en sais strictement rien. Je ne peux pas mieux vous dire. Toutes les infiltrations que nous avons décelées intéressent les franges extérieures de la nation. Il se peut que la métropole planétaire soit encore indemne, quoique la chose ne soit pas absolument certaine, sans quoi je ne vous aurais pas fait subir l'épreuve de l'analyse. Vous étiez particulièrement à soupçonner, docteur Darrell, puisque vous avez abandonné les recherches en collaboration avec Clyze. D'ailleurs, il ne vous l'a jamais pardonné. Je pensais que la seconde fondation vous avait peut-être corrompu l'esprit, mais Clyze a toujours soutenu que vous n'étiez qu'un lâche au fond. Vous voudrez bien me pardonner, docteur Darrell, si je me suis permis de rapporter ici son opinion pour expliquer ma position en toute clarté. Personnellement, je crois comprendre votre attitude, et si la crainte fut le mobile de votre décision, ce n'est qu'un péché véniel. Darrell poussa un soupir avant de répondre.
Je me suis enfui. Appelez cela comme vous voudrez. Je me suis efforcé d'entretenir notre amitié, mais il ne m'a jamais écrit. Il n'est jamais venu me voir jusqu'au jour où il m'a fait parvenir votre schéma psychique, une semaine à peine avant sa mort.
Omir Mun, dans un soudain sursaut d'éloquence, interrompit Darrell.
« Si vous permettez, je ne vois pas où vous voulez en venir. Nous sommes de bien piètres conspirateurs si nous nous bornons à discutailler comme ça toute la soirée. On dirait une bande de gosses, toutes ces histoires d'ondes psychiques et ce charabia à la noix. Avez-vous l'intention de faire quelque chose à la fin ?»«
Mais certainement, » répondit Pelea Centaure, les yeux brillants. « Il va nous obtenir davantage de renseignements sur la seconde fondation. C'est une nécessité primordiale. » Le mulet a consacré les 5 premières années de son pouvoir à cette recherche. Et il a échoué, ou c'est du moins ce qu'on nous a laissé croire. Puis, il a paru se désintéresser de la chose. Pourquoi ? Parce qu'il avait échoué ? Ou justement parce qu'il avait réussi ?
Encore des discours ! Dit Mun amèrement. Comment le saurons-nous jamais ?
Si vous voulez bien m'écouter. La capitale du mulet était sur Kalgan. Kalgan ne se trouvait pas dans la sphère d'influence commerciale de la Fondation avant l'arrivée du mulet et ne s'y trouve plus actuellement. Kalgan est actuellement dirigé par un certain Stettin, à moins qu'une révolution de palais ne l'ait déjà renversé. Stettin se fait appeler premier citoyen et se considère comme le successeur du mulet. S'il existe quelques traditions dans ce monde-là, elles reposent sur le caractère de grandeur surhumaine du mulet. Une tradition dont l'intensité confine à la superstition. En conséquence de quoi, l'ancien palais du mulet est vénéré à l'égal d'un sanctuaire. Nulle personne ne peut y entrer sans autorisation. Personne n'a jamais touché à rien à l'intérieur depuis sa mort. Et alors, pourquoi en est-il ainsi? À l'époque où nous vivons, il ne se passe rien sans raison. Que diriez-vous si ce n'était pas la superstition qui rend le palais du mulet inviolable et inviolé? Que diriez-vous si c'était la seconde fondation qui avait pris les dispositions nécessaires pour cela? En bref, que diriez-vous si les résultats des recherches effectuées par le mulet au cours de ces 5 années se trouvaient à l'intérieur?
Vous délirez!
Pourquoi pas? Demanda Antor. Pendant tout le cours de son histoire, la seconde fondation n'a cessé de se cacher et n'est intervenu dans les affaires de la galaxie que de façon imperceptible. Je sais qu'à vos yeux, il pourrait paraître plus logique de détruire le palais, ou du moins de s'emparer des renseignements qu'il contient. Mais il convient de considérer les actions de ses maîtres en psychologie avec les yeux du psychologue. Ce sont tous des Seldon, tous des mulets. Ces gens-là agissent par suggestion. Ils manipulent les esprits. Ils se garderont toujours de détruire quoi que ce soit ou de le prendre directement tant qu'ils pourront arriver à leur fin en créant un état d'esprit convenable. N'ai-je pas raison ?
Faute de réponse, Antor poursuivit.
C'est là que vous entrez en piste, Mann. Vous êtes l'homme de la situation. C'est vous qui allez nous procurer les renseignements dont nous avons besoin.
Moi ?
S'écria l'intéressé avec une stupéfaction non feinte. Mann dévisagea tour à tour ses compagnons.
Je ne pourrai jamais faire une chose pareille. Je ne suis pas un homme d'action, voyons. Je n'ai rien d'un héros du tridi feuilleton. Moi, je suis bibliothécaire. Si je puis vous aider dans la mesure de mes moyens, pas de problème. Seconde fondation ou pas, ce n'est pas un problème. Mais il est hors de question que j'aille jouer les Don Quichotte de l'espace. Ça jamais.
Écoutez-moi donc, dit Antor avec impatience. Le docteur Darrell et moi sommes d'accord sur le fait que vous êtes l'homme de la situation. Si nous voulons faire les choses comme il faut, il n'y a pas d'autre façon. Vous êtes bibliothécaire, dites-vous. Parfait. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Le mulet. Vous possédez déjà la plus grande collection muletière de toute la galaxie. Il est tout à fait naturel que vous désiriez en obtenir davantage. Plus naturel en tout cas que si ce désir était manifesté par un autre individu. Vous pourriez solliciter l'autorisation d'entrer dans le palais de Kalgan sans qu'on vous soupçonne d'arrière-pensée. On pourrait à la rigueur vous en refuser l'accès, mais on ne vous tiendrait pas pour suspect pour autant. De plus, vous possédez un vaisseau monoplace. Tout le monde sait que vous mettez à profit vos congés annuels pour visiter d'autres planètes. D'ailleurs, vous êtes même déjà allé sur Kalgan. Tout ce que nous vous demandons, c'est de continuer à faire ce que vous avez toujours fait. C'est si difficile à comprendre. Mais je ne peux tout de même pas aller là-bas et dire « S'il vous plaît, monsieur le premier citoyen, vous ne voudriez pas me laisser entrer dans le plus sacré de vos sanctuaires juste comme ça ?»«
Pourquoi pas ?»«
Parce que par la galaxie, il ne me laissera jamais entrer !»
Bon, d'accord, vous avez raison, il ne vous laissera pas entrer. Si c'est comme ça, vous reviendrez et nous chercherons autre chose.
Mun se débattait dans les affres d'une rébellion impuissante. On voulait le persuader d'accomplir une mission qui lui faisait horreur, et nulle main secourable ne se tendait vers lui pour le tirer d'affaire. Finalement, deux décisions furent prises dans la maison du docteur Darrell. La première fut l'acceptation par Mun, à son corps défendant, de prendre le chemin de l'espace dès le premier jour de ses congés d'été. La seconde, d'un caractère strictement personnel, fut prise en dehors de toute autorisation officielle par un membre clandestin de la Conjuration au moment où elle coupait le contact du micro et se disposait à s'endormir d'un sommeil tardif. Mais cette seconde décision ne nous concerne pas pour le moment.